Vous écoutez
RMC.
Mais en tout cas, cette équipe d'Angleterre, une fois qu'on a dit qu'ils ont tout donné, ils ont essayé. Moi, il y a quand même des choses. Hein, alors, j'en avais parlé avec Julien. Je le dis qu'une fois, et puis après, on passera vraiment à autre chose. Mais je comprends pas pourquoi il y a pas Cole Palmer dans cette équipe quand même. Et surtout, je comprends pas comment Madueke fait quasiment.
Là, en revanche,
minutes.
De chouiner sur un mec qui est même pas dans la liste. Là, on est sur un débat dépassé, mon vieux.
C'est parce qu'en fait, c'est la place.
Non, mais s'il est pas là, il est pas là. Tu vas pas te mettre à chialer.
C'est la place où joue Madueke. Et je suis désolé.
Dis que tu veux pas que Madueke soit là, d'accord?
Non, mais Madueke, pour moi, il n'y a rien à faire 80
oui,
minutes
il
sur
pas
le
là,
terrain.
Il est en vacances.
Il n'y a rien à faire 80 minutes sur le terrain. Mais là, je remets en question les choix de l'entraîneur.
Mais il trouve quoi, Madueke?
Il aime
pas.
La percussion. Il aime
la percussion.
Il aime la
percussion.
Il
percute quoi? Il percute que dalle, enfin.
Je sais. Et en plus, il ne fait pas non
tu
plus.
Tu vois bien que son principal souci, c'est de savoir comment ses cheveux sont mis dans le bandeau.
Oui.
C'est une préoccupation pour lui.
Parce qu'il y a quand même une accélération. Il y a une ou deux fois en première période où effectivement il fait la différence sur le côté. Sur le côté, il est meilleur à droite qu'à gauche. Déjà, ça c'est sûr.
Il a quand même mis à gauche avant de faire rentrer Rashford. Ouais. Quand même. C'est quand même
ça,
complètement
fou. On l'a dit pendant effectivement.
Mais quand est-ce qu'il va faire rentrer Rashford?
Incroyable.
Il a quand même été décisif au dernier match. C'est un mec que tu peux faire rentrer, qui tire bien les coups de pied. J'ai une autre question. Pourquoi ils font pas les longues touches de Declan Rice?
Je sais pas. Voilà, c'est une bonne question. Ils ont beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés, même si aujourd'hui on l'a pas bien vu parce qu'ils ont pas été très bons dessus, contrairement au match de la Croatie. Mais ouais, les touches, je crois que Tuchel n'est pas grand fan.
T'as cru qu'il bossait dans le staff, genre il est anglais.
Est-ce que les Anglais,
genre ils bossent en Angleterre, donc il est dans le staff.
Non, ça, ce serait une question pour tes confrères. C'est une question pour tes confrères anglais.
Non, mais
il y a un moment, Declan Rice et les touches, c'est une des meilleures armes sur les deux derniers.
Ouais, mais je crois que
Tuchel
n'est pas fan.
Il n'est pas fan.
Justement, Declan Rice. Écoutez, Julien, si tu veux bien traduire, c'est parti.
Yeah, I think so.
Je pense, mais j'ai pas
la question.
C'est toujours difficile de jouer contre 11 joueurs derrière le ballon. Trouver des solutions. Dans les 10 dernières minutes, on en trouvait plus que dans tout le reste du match. 4 ou 5. Pour rester positif, continuer. On a toujours encore une très grande chance d'être premier du groupe. Avec le match contre l'Allemagne. Vous n'avez pas trouvé les solutions. Pourquoi vous n'avez pas su trouver les solutions après avoir très bien joué contre la Croatie? Vous donnez du crédit au Ghana. Le 4-5-1, sans ballon, très compact. Pas beaucoup d'espace dans lesquels jouer. Mais de l'autre côté, on peut faire un peu plus avec le ballon, créer plus. Mais c'est dur. Ils ont des bons joueurs, ce ne sera jamais un match facile. Il nous reste encore un match pour finir premier et se concentrer là-dessus. Ça fait trois Coupes du Monde d'affilée où vous ne faites pas chenille lors de vos deuxième match de Coupe du Monde. Il ne faut pas paniquer, tout se passe bien. Beaucoup de grosses nations ont fait match nulle lors de leur premier match. Ça arrive, il faut rester positif et maintenant récupérer avant le match d'après.
Oh, il n'a pas tort.
Il a pas tort, non, il a pas tort. Faut rester positif, hein, on l'a dit. Vaut mieux arriver à ton meilleur niveau quand ça compte vraiment pour les huitièmes de finale, quart de finale, etc., que maintenant dans un match contre le Ghana. Mais après, oui, effectivement, il y a des questions entre le management de Tuchel sur la composition d'équipe de départ, pendant la rencontre aussi, la performance de certains individuellement. On va reparler de Bellingham aussi, forcément, parce que.
Tu viens de me faire le sommaire des 15 prochaines minutes là, juste avant. Accueillons Pablo au 32-16 qui est là. Pablo, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Pablo a plus un prénom à appeler pour un match de l'Espagne.
Ouais, mais sauf que Pablo, il est franco-italien.
Ce qui n'a rien à voir avec le Ghana.
Ça ne justifie pas plus Angleterre Ghana, je suis désolé. Faut rappeler mon.
Alors,
et puis dans une autre Coupe du Monde pour le coup alors.
Sauf que tu sais pas laquelle, ce sera peut-être en 2050.
Et puis, ta chambre, Pablo.
Et puis Pablo, il n'y a aucun rapport. Paolo éventuellement, mais Pablo.
Ouais,
mais
on va t'appeler Paolo.
Il y a un contrôle d'identité à effectuer, excuse-moi.
Non, mais justement, c'est parce que ma mère voulait pas rentrer dans le cliché de l'italien qui s'appelle Paolo. Elle a dit ah, c'est Paul en français, mais j'aime pas Paul, c'est Pablo, c'est quoi du coup. Bref.
Okay.
Alors, j'appelle parce qu'en fait moi je regarde tous les matchs quasiment de la Coupe du Monde et que l'Angleterre c'était une équipe qui me faisait kiffer à regarder. Et ce soir en fait moi j'ai été grave déçu parce que je les ai trouvés très monorythme en fait. Vous allez me dire que c'est compliqué de mettre de la vitesse dans le jeu quand on joue face à deux murs de béton, ce qui est vrai en vérité.
C'est souvent Pablo, si tu permets, c'est souvent le problème, c'est que si ça n'était pas
Ça a été le même débat pour l'Espagne. Et si ça n'était pas à chaque fois, les mêmes propos et les mêmes arguments qu'on entendait quand on voyait ce genre de match, je pourrais donner raison à ceux qui critiquent l'équipe. Ok, mais là, en fait, c'est tout le temps pareil. On dit ça manque de rythme, on dit ça manque de... Mais en fait, c'est tout le temps le même type de match. C'est pour ça que c'est très dur. J'ai toujours, moi, beaucoup de mal à critiquer une équipe qui fait ce genre de match, parce que tu dis, ok, c'est l'autre. L'autre a bien tenu. L'autre, en plus, quand il est costaud comme le Ghana, bon, ben, c'est très difficile à prendre en défaut. Et quand derrière, tu rates une occasion comme celle de Kane, qui peut être le but, on va dire, un peu libérateur. Bon, mais okay.
Ce qu'il faut savoir, Pablo, c'est que là, on parle pas de l'Ouzbékistan. On parle pas de joueurs de seconde ou de troisième zone européenne. Là, on parle de joueurs de première ligue et de Ligue 1 pour la plupart, et qui jouent un bloc bas resserré comme une Coupe de France entre une N2 et une Ligue 1. Mais là, c'est des joueurs de très très haut niveau, et les joueurs du Ghana.
Son mastoc physiquement.
Les mecs, tu vas pas les déborder. Tu vas pas les déborder en vitesse. Tu vas pas les déborder en puissance. Et en fait, c'est exactement comme si un très bon boxeur professionnel, il arrive face à un top boxeur et il se dit, je vais pas mettre une droite, je vais rester en garde et je vais rester comme ça pendant les 12 rounds. Mais tu vas pas le toucher, le mec! C'est impossible! Il avance pas, il fait que reculer et il attend. Et donc là, je te dis que quand t'as des Semenyo, t'as des mecs qui sur une action, ils peuvent te mettre une axelle et t'es mort. Donc en fait, attention. Là, on parle de matchs de Coupe du Monde face à des sélections où il y a pour 60-70% de leurs effectifs des joueurs de haut niveau dans les plus grands clubs. Et ben, si l'entraîneur et tous les mecs, ils ont décidé de se mettre sur les genoux à 0-0 pour fêter un 0-0, mais franchement,
après, c'est
quasiment
pareil. C'est
ou alors tu leur mets un but sur un corner, sur un truc, et là, ils vont être obligés de sortir et là, ils vont être obligés de faire
c'est toujours la même histoire. Si tu marques un peu vite, ça change toute la donne de la partie. Ou si tu ne rates pas ce Karate Kane, t'as arraché ton match, tu au revoir tout le monde, et puis voilà. Mais c'est toujours les mêmes scénars, on les connaît par cœur, ces histoires.
Après, les gars, très honnêtement, je veux pas critiquer l'Angleterre. Je trouve que le Ghana, ils ont fait le match qu'ils voulaient faire. Les Anglais, après, comme vous l'avez dit, ils ratent l'occasion qui fait le 1-0. Ça aurait fait sortir un peu plus les Ghanéens, le match aurait été un peu plus ouvert. Mais en fait, ce que je dis, c'est qu'à vouloir se montrer trop patient, en fait, ils ont laissé passer leur chance. C'est-à-dire qu'ils, certes, ils ont pas mis de rythme, c'était compliqué d'en mettre et tout, mais en fait, je pense qu'en voulant justement se dire, on se met pas la pression, on commence pas, on fait pas de conneries, on continue à jouer notre football, à un moment donné, en fait, c'est ça qui a fait qu'ils ont pas pu aller les déborder, aller faire la différence. Je me fais pas de soucis pour les Anglais.
Après, c'est peut-être les joueurs, on en revient à ce qu'on disait au début, et après, je pense que sur les côtés, ça manque de qualité. De qualité technique, il y a de la percussion, mais pas assez de qualité technique. Donc là, peut-être que de ce côté-là, les Anglais n'avaient pas tous les atouts pour prendre en défaut cette défense.
Très bonne entrée d'O'Reilly.
Ça, je l'accepte.
Ah, moi, j'aurais fait débuter
O'Reilly. Très bonne entrée. D'ailleurs, parce qu'on parle de l'occasion de Kane, mais la tête d'O'Reilly. La tête épaule, mais bon, elle est à 10 cm de faire barre transversale rentrante.
C'est sûr. Donc, moi, j'aurais débuté O'Reilly. On en a parlé dans l'avant-match en disant qu'il n'était pas là parce qu'ils avaient voulu la vitesse de Spence et avoir un meilleur défenseur à gauche contre Iñaki Williams. Je pense qu'on aurait tous pu défendre sur Iñaki Williams vu son niveau. Et moi, je pense qu'O'Reilly apporte tellement à cette équipe quand il joue que j'aurais fait débuter. Et je pense qu'il aurait beaucoup apporté à cette équipe-là s'il avait eu joué d'entrée.
Pablo, un truc à rajouter, Pablo, ou t'as tout dit?
Non, je vous rappellerai sûrement pour d'autres matchs nocturnes, les gars.
tu te fais des nuits blanches là en ce moment?
En ce moment, je me suis arrangé avec le taf pour bosser en même temps que je regarde les matchs en fait la nuit. Donc
c'est magnifique ça.
Sympa ça.
Et tu fais quoi comme boulot si c'est pas indiscret?
Moi, je fais on organise des podcasts avec des créateurs de contenu avec ma collaboratrice. On fait la promo pour les créateurs de contenu, voilà.
Bon, mais tu sais quels sont les meilleurs podcasts en France ou pas?
Absolument. Mais on n'est pas du tout dans la niche que vous.
Ah d'accord, ok.
Ça me permet de dire que les podcasts de la France sont à nouveau bien rangés, parce qu'on a eu quelques petits soucis. Normalement tout va bien.
Pour le coup, nous c'est une niche, c'est une maison.
Non, c'est une maison. C'est un hôtel particulier.
C'est New York.
Merci Pablo, bonne continuation à toi.
C'est vrai que franchement, suivre la Coupe du Monde, c'est compliqué.
Avec décalage horaire,
ouais, c'est compliqué.
C'est mieux comme ça en Europe, on va pas se mentir.
Est-ce que les gens comme sur la NBA,
Pablo, salut.
Salut Pablo. Est-ce que comment pour la NBA, quand tu suis la NBA avec les matchs sur la nuit aux États-Unis, est-ce que les gens se font les highlights de 10 minutes le lendemain ou est-ce qu'ils regardent tout le match?
Au-delà de cette question, c'est pas la première fois évidemment que la Coupe du Monde se joue.
Nous, on a la chance de la vivre en heure normale.
De ce côté de l'Atlantique, mais. la Coupe du Monde au Brésil en 2014, le décalage horaire n'est pas exactement le même.
Mais un peu moindre.
Mais il y avait des matchs dans la nuit.
Il y avait 4 heures de décalage avec Rio.
Tu avais des matchs dans la nuit ?
Bah, forcément, quand tu avais les
matchs. Il n'y avait pas de matchs dans la nuit, moi, je crois.
Il devait avoir
Et quand la Coupe du Monde s'est déroulée aux États-Unis en 1994, il n'y avait pas de matchs dans la nuit. Est-ce que ce n'est pas le fait plutôt qu'il y ait beaucoup plus de matchs, puisque il y a 48 équipes, qui a fait que le calendrier étant trop plein.
En 94, on jouait à midi sous 40 degrés.
Ben là, il y a des matchs qui jouent à 13h. Il y en a plein qui jouent à 13h, là. Aujourd'hui, ça joue à 13h.
Il y en a moins parce que le football est maintenant plus globalisé. Donc, on fait un peu moins en fonction de l'Europe.
Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il y ait beaucoup plus de matchs qui fait que ça a décalé des matchs dans la nuit?
Si, peut-être aussi.
Je pense que c'est ça. Parce que la Coupe du Monde en 94, moi, j'ai pas souvenir de m'être levé la nuit pour voir des matchs. Les matchs avaient lieu.
Il y a quasiment aucun match la nuit. Parce que tu vois les images, il y a que les matchs d'après-midi.
À Los Angeles, on est joué à midi, ou même au Mexique, on est joué à midi. Ça, je veux bien. Là, il y a des matchs à 13h. Il y a des matchs qui se déroulent à 13h, côte ouest et
tout. Oui, mais il n'y en a que un par jour.
Ok, mais pour les étaler tous dans le calendrier, t'es obligé d'en bousculer, d'en repousser, et donc c'est ça qui fait qu'ils atterrissent la nuit. C'est uniquement pour
ça. Après, il y a la période des plus grandes.
Sinon, tu pouvais faire en sorte que t'en aies pas la nuit. Parce que, sinon, c'était en 78 en Argentine. Il y en avait, mais c'était des coups d'envoi. Il y a eu des coups d'envoi à 23h et à minuit. Donc on a toujours pu les caser, mais là cette année t'as des trucs à 3h du mat. En France, on n'avait pas eu ça. Dans
même ici, hein, même quand on est là, nous on a des matchs à minuit qui commencent à minuit pour nous ici sur la côte est, parce qu'ils sont à 9h.
Je pense que c'est
imagine un match de l'Euro en France
21h à minuit ici.
Et j'ai match à Corée, en revanche c'était le matin. Il y avait des matchs qui démarraient à 8h du mat.
Exact.
C'est dans l'autre sens.
C'est un peu le principe du décalage horaire.
C'était pas ça que je voulais souligner, c'est ce que je voulais dire, c'était le nombre de matchs qui faisait que ça repoussait la nuit.
On en reparlera dans une heure, mais malgré tout, M6 a fait un score assez dingue pour la deuxième mi-temps en pleine nuit dernière.
En pleine nuit. Excellent, ouais, quasi 5 millions en pleine nuit.
En même temps, il n'y a rien à regarder en pleine nuit, à part la rediffusion
de la nuit.
Pour les gens normaux.
Si tu veux regarder.
Selon certains spécialistes que j'ai entendu aujourd'hui, il y a un effet canicule. Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à bien dormir à cause de la canicule en France.
C'est vrai aussi.
Ils se disent, bon, bah, vu qu'on dort pas,
mais la télé dans la chambre,
autant regarder. Bon.
En même temps, je te dis, à part la rediff de police d'urgence en pleine nuit.
Et si vous ne dormez pas, vous allez sur YouTube, After Foot TV, vous avez une vue magnifique sur Manhattan. Voilà, vous avez Kevin qui est là au top et toute l'équipe de l'After, donc After Foot TV sur YouTube. Petite évaluation, tu voulais parler de Bellingham notamment.
T'as pas aimé Bellingham,
Julien.
C'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'on en a beaucoup parlé, qu'il avait convaincu lors du premier match contre la Croatie. C'était un match important pour lui. Il y avait cette place à gagner devant Morgan Rogers, etc., etc. On va pas refaire tout le débat qu'on fait depuis plusieurs semaines maintenant. Et je trouve que ce match-là était important pour lui aussi. Alors il y a des très bonnes choses. Il y a en début de seconde période, il revient sur Semenyo, il est quasiment un contre un sur Semenyo à l'entrée de la surface anglaise. Il fait un très bon tacle, il récupère le ballon. Donc, encore une fois, dans l'attitude, je pense que ça a été plutôt positif. Mais dans le match en lui-même, j'attendais beaucoup plus de Bellingham dans un match comme ça. Surtout, encore une fois, face à un bloc bas où t'as pas d'espace, c'est ce genre de joueur-là, comme lui, qui dans les petits espaces doit faire la différence, et il l'a pas assez fait.
Ouais, moi je trouve qu'on est très très sévère avec Bellingham, mais bon, ok, c'est la star de l'équipe avec Harry Kane, donc pourquoi pas. Alors peut-être qu'il a cette image, j'ai l'impression en tout cas qu'il a cette étiquette un peu de je vais pas dire de tête à claque, mais de joueur qui peut agacer certains.
Ouais, il l'a eu en tout cas, ça c'est sûr.
Qui peut agacer certains. Moi, quand je regarde son match, je vois un mec qui se tape, comme t'as dit.
Ouais.
Je vois un mec qui a le numéro 10 dans le dos, mais qui est à l'ancienne, qui va aller salir le short, qui va tacler quand l'équipe a besoin qu'il tacle, qui va faire les efforts défensifs.
Mais là, tu l'attends en phase offensive aussi.
Oui, mais lui, il est comme les autres. Il n'y avait pas d'espace. D'accord. Et donc, pas d'espace dit, il faut que le ballon tombe au bon endroit, au bon moment. Ça a été le cas. Si c'est lui qui rate l'occasion de Harry Kane,
peut-être.
On peut dire que là, on en entend toute la soirée. Il a bouffé la feuille et tout. Mais comme c'est Harry Kane qui n'est pas du tout dans les polémiques et qui est vraiment l'avant-centre en chef, donc on va lui pardonner. Et c'est tout à fait normal. Hein. Les attaquants peuvent rater.
Pourquoi Kéros l'a pourchassé à la mi-temps là? Ça m'a échappé. Oui, la fin à la mi-temps là, il était derrière Bellingham là, limite à l'insulter.
Embrouille sans motif.
Ou alors il voulait son maillot, il a dit non.
Kéros un peu bizarre après le match contre le Panama, donc où il gagne à la 95e minute à Toronto, et coup de sifflet final, au lieu d'aller serrer la main de l'entraîneur Christensen du Panama et de ses joueurs, il est parti tout seul célébrer devant les supporters ghanéens.
Oui, exact.
Incroyable ça, j'ai jamais vu ça. Incroyable.
Et hier soir, le sélectionneur de la Norvège, t'as vu ce qu'il a fait?
Non,
il a été embrassé sa femme.
En fait, t'as Papthiou qui se rapproche.
Ouais.
Et lui, rien à secouer, il monte dans la tribune, au milieu de la tribune, pour aller embrasser sa femme.
Ah oui, sur le bac, il est comme ça.
D'ailleurs, sur les Norvégiens, on a
Alcaraz à Roland Garros.
Moins que vous l'ayez fait sans que je sois là, mais on a peu mentionné leur délire de fin de match, là.
On l'a pas fait hier soir.
Ah, tout monde, on se souvient en 2016 ouais. des Islandais qui avaient fait le fameux clap.
Moi, j'étais au stade, c'est exceptionnel.
Et les Norvégiens, donc, ils sortent le tambour et ils font leur espèce de truc de rameur.
De rameur qui a été fait au Parlement norvégien, même. C'est devenu une marque
de. Oui, c'est le truc des
Ils vont tous, hein. Ils vont tous faire ça.
C'est Odegaard qui fait le, qui tape son tambour.
Non, mais là, pendant le match.
Moi, je te dis, méfions-nous des Norvégiens.
C'est assez fédérateur.
On en parle tout à l'heure.
Moi, j'étais au stade hier, mais si tu veux, je t'en parle après.
Ben, c'est bien pour ça que je t'ai dit qu'on en parle après. Bon, du coup, le match de Kane, on l'évalue comment?
On en parle après. De le match de qui?
De Kane.
Quand tu rates une occasion pareille et que t'es le leader, le buteur de l'équipe, c'est forcément pas un bon match.
C'est un peu abusé,
C'est pas un bon match.
Canada Dry?
Non, rien,
c'est juste pas un bon match parce que tu dois pas rater ça. Mais même lui, je suis sûr, s'en veut. Et ce soir, il va se coucher.
Après, comment j'ai pas raté ça, quoi. Elle est quand même du gauche.
Pour moi, il n'y a pas de justification. Toi, on t'aurait excusé, pas lui.
Non, mais franchement, la reprise de volée du mauvais pied comme ça à 1 mètre du sol, c'est vraiment pas la plus facile. Vraiment.
Elle est dans les 6 mètres. Sincèrement, il en a marqué. J'en ai vu marquer des dizaines de buts comme ça. Sincèrement.
J'entends, mais c'est pas le geste le plus facile du mauvais pied.
Goal, c'est 0,35, quoi. C'est une occasion qu'à ce niveau-là, ce genre de joueur-là marque.
Mais est-ce que l'expected goal prend en compte qu'il est sur son mauvais pied?
Non, d'accord. Voilà. C'est pas ça. Oui, peut-être, mais c'est quand même Harry Kane.
Il a les deux pieds.
Non, franchement, O'Reilly commence déjà à courir pour aller célébrer. Tu vois la tête de Tuchel quand il rate. Tu comprends très bien. À un moment, je suis désolé, c'est Kane. Mais après, c'est un match frustrant. Je peux très bien le comprendre contre un bloc bas. On l'avait dit, après 35 minutes, il avait touché le ballon 6 fois. 6 touches de balle en 35 minutes pour Harry Kane. C'est ridicule. Ils n'arrivaient pas à le trouver. À part celle-là, c'est le rebond de la transversale. Oui. C'est même pas une occasion créée pour lui. Donc ils ont eu beaucoup de mal à le trouver. Je pense pas que ce soit inquiétant. Encore une fois, il faut rester positif et tout ça, mais c'est un match qui doit être frustrant.
On a tout lu sur l'Angleterre, les gars. Vous voulez rien rajouter? C'est bon, on peut passer à la suite.
J'ai bien aimé Pickford sur la fin.
Mais ce qu'il y a faute.
La sortie.
Donc pas celle où il y a le pénalty.
Pour moi, il y a plus faute de Pickford que pénalty.
Non, parce qu'il se bloque.
Il fait exprès. Il est perdu. Il gêne le gars.
Ok.
Quand tu joues au foot, t'as un cerveau.
Ouais, c'était un peu limite, je trouvais, qui est faute pour l'Angleterre.
Il n'y a jamais faute pour l'Angleterre.
Je vois pas ce que quand il dit, excuse-moi, mais quand il dit, j'ai aimé Pickford, mais il a aimé de quoi?
J'ai aimé sur ses relances au pied, notamment sur la.
Je vais te la ressortir parce que même
but,
ça.
Et le but, c'est quoi? C'est de faire l'original? C'est comment?
J'ai bien aimé Pickford, alors que normalement, il est très maladroit. Je l'ai trouvé assez juste.
Pour aller dans le sens de Kevin, il a quand même raison parce que le Ghana a quand même fait un tir dans le match.
Exactement. Mais tu sais, un gardien, c'est pas que les frappes, c'est aussi sa présence. Les fois où il arrive à ressortir le ballon en une touche, je l'ai trouvé faire des trucs assez
de passe longue.
C'était un tir cadré.
Je parlais des passes courtes, moi.
Passes courtes, il est bien. Il est à 21 sur 23.
Passes
courtes, de moi à toi, de moi à Gilbert, de moi à Daniel, c'est des passes
courtes. Sur un match comme ça où l'adversaire, il a quasi zéro d'expérience, tu te dis, j'ai bien aimé.
Je suis en train de regarder particulièrement les gardiens parce que je refonte.
Ah, c'est pour ça.
C'est en pleine refonte de mon squad.
Tu cherches
un gardien.
Pickford,
c'est trop cher pour toi.
Oui, find it. Tu vires l'autre, il était pas assez bien.
Il avait un super gardien.
Non, c'est pas la question de virer dans la vie. Des fois, on part sur d'autres options.
Non, attends, réponds-moi. Ton super gardien que tu avais en Coupe de France.
Tu m'as dit quoi? We found it. Non, we found him.
Non, je parle pour vraiment refonder tout le score.
Ah, d'accord.
Donc, hit, parce que c'est plus une stratégie.
Retourne à New York, là.
Il nous mitonne depuis 10 ans, coupé par 5 langues. Bon, t'en as fait quoi de ton super gardien?
Il l'a viré, il l'a vendu.
Il m'a dit que je l'ai viré, j'ai dit qu'il reste pas.
Il reste pas, c'est-à-dire qu'il part.
C'est un peu flou.
Il voulait un meilleur directeur sportif.
Tu l'as vendu?
Ouais. Non, j'ai pas vendu, mais j'ai vendu un joueur.
T'as vendu un joueur?
Vendu un joueur.
On peut avoir la somme?
Non, on peut pas donner la somme.
Pourquoi on peut pas avoir la
somme?
Est-ce que c'est moins de 100 000?
Oui, c'est moins de 100 000. On a vendu,
ça existe un joueur qui se vend moins de 100 000?
Bah oui, on a quand même.
À ce niveau-là.
Et
oui,
on a quand même vendu c'est la première vente de l'histoire des Lusitanos. C'est pas rien.
C'est moins de 50 000?
Bravo.
Entre 50 et 100.
Ah oui, moi je sais à qui il l'a vendu en plus.
À Versailles.
Entre 50 et 100?
Ah, donc en plus, c'est un step-up en plus. Pour
c'est un step-up. C'est bien, ouais. C'est un step-up pour le club.
Pardon, combien tu pourrais le recruter?
Julien?
Ah, moi, je suis vieux, maintenant 45,
Non, mais Julien, on peut pas recruter. Il n'y a pas de valeur marchande, là.
Non, ouais. Ce serait, non, ce serait rendre service. Ouais, on a vu des directeurs sportifs qui rendent service à des amis. Hein,
quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est, pas, c'est, pas, c'est pas le
cas. Bon, dans un instant, le Portugal.
Ah, s'il fait une demi-heure dans un match, c'est bien.
Ouais, on prend ambassadeur, Julien. Non, je vais ramener du monde. Ça, là, on a peut-être trouvé un sponsor sur New York déjà.
Mais en plus, Valdemar.
Mais je vous en parlerai plus, plus tard.
Valdemar, en tant que Valdemar, en oui, bien sûr. Hein,
F4. Je suis à fond. Et puis le docteur Laurence, des fois, collabore avec le club.
Tout à fait.
Ah bon? La Fafa.
Ah ouais, bien sûr.
Ah, moi je peux rien dire parce que ouais,
il a réglé mon arthrose du.
Il avait eu du mal à me soigner.
Il a réglé mes arthroses du pied.
Il m'a demandé le jour comment t'allais d'ailleurs, je lui ai dit.
Ouais, ça va moi, très très bien, tu lui diras. C'est exceptionnel ce qu'il a fait.
Moi il te demande pas comment je vais, moi.
Toi il te demandait quand t'allais le voir, quand t'étais blessé, mais t'es plus.
Je peux pas tout réussir. Moi, moi il m'a raté.
Ouais. C'est peut-être toi qui as raté en fait. Comme sportif, hein, pas comme consultant.
Le Portugal, dans un instant. On y revient. Cristiano Ronaldo a-t-il répondu aux critiques?
Je vais enlever ma veste, du coup.
Allez, à tout de suite dans l'After. On est là jusqu'à 5h du matin dans la nuit de l'After, évidemment, en direct de notre studio américain. À tout de suite.